ligne à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent. C'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre l'Asie et lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Hola, 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 bienvenue dans ce Canu Info du jeudi 4 octobre 2018.
Eh oui, 4.
Je passais déjà à vendredi, vous voyez, j'allais trop vite pour finir la semaine de travail. Vous avez donc entendu une voix qui n'est pas celle de notre petit Laurent. Et non, parce que lui est au travail.
Il en faut.
Et il y a faux qui bosse pour nous. Il paraît que c'est bien pour les retraites, tout ça, puis ça fait des tas de trucs. Enfin, c'est bien. Il est au travail et donc c'est toi, Fabien, qui ce soir est avec moi.
Eh oui, bonsoir. Bonsoir, Delphine.
Merci, bonsoir à toi aussi. Alors, juste pour rappeler, parce que peut-être que certains de nos auditeurs, certaines de nos auditrices reconnaissent ta voix, parce qu'on peut te retrouver le dimanche soir.
À 22h dans la causerie.
Et oui, avec Jean-Yves, avec qui j'ai animé cette émission il n'y a pas si longtemps que ça.
C'est ça.
Et il y a plein d'autres gens d'ailleurs dans la causerie.
Ouais. Hein,
c'est une belle équipe. Alors ce soir, on va vous parler de plein de choses avec Fab. Bon, d'abord, je dois vous dire qu'on va vous parler de Monsieur Laurent, c'est moi le plus beau, de Monsieur Jean-Luc, quoi, j'ai pas dit ça, de Monsieur Emmanuel, ouais, c'est moi le chef, et puis évidemment, de Monsieur Gérard, moi que j'ai appelé à la poutine.
C'est ça.
Et pas le machin avec les frites.
Malheureusement.
Non, mais bien de à la russe. Nous parlerons de journalistes qui ont des soucis. Si
ouais,
j'ai tout compris.
C'est ça.
Nous irons. Alors, je vous le dis, ça ne sera peut-être pas l'ordre. Hein. Oui, il ne faudra pas vous étonner si on passe de l'un à l'autre. Nous parlerons aussi de la RATP parce que la concurrence, elle est en marche. Oh oui, il avait un jeu de mots. En tout cas, ça va chauffer. Enfin, moi, je me dis que ça va chauffer. On parlera des barbares, donc des États qui pratiquent la peine de mort. Nous partirons en Irak. Nous aurons une petite partie consacrée au tourisme et en partie au particulier, excusez-moi, au tourisme de masse, mais on parlera aussi palace, vous savez, là où les riches, c'est-à-dire pas nous, vont dormir. Et puis on aura une page peut-être plus environnement, on parlera peut-être d'autres choses, comment on dort, enfin voilà, voilà, voilà. Mais quand même, on ne pouvait pas faire l'impasse dans ce Canu Info de cette nouvelle situation. Gérard nous revient.
Ah oui, ça c'est quand même la nouvelle du moment quand même.
Alors bon, moi je veux dire quand même que le moment qui m'a le plus plu, c'est la passation entre messieurs Philippe et Colomb. Je dois dire que c'est le moment où vous laissez l'image et vous coupez le son. Parce que bon, la voix de Gérard, si vous voulez, il y a un moment, moi je peux plus. Et puis vous regardez les corps. C'est-à-dire comment la gestuelle, comment les gens se tiennent. Et vous avez peut-être que vous avez vu de ces images de votre côté, et peut-être que ça vous a marqué, ou peut-être pas du tout, vous avez justement été concentré sur ce qui se disait, et ça vous a fait marrer. En tout cas, nous avons un monsieur Philippe qui se tient droit, mais alors très, très...
Alors, comme un i. Comme on dit, hein, vraiment.
Hein. Voilà.
Mais alors un grand I, quoi.
Ouais, parce que alors, du coup, il y a Gérard à côté qui est tout petit. Enfin, qui n'est pas tout petit, mais il faut dire que M. Philippe est grand. Il y a un maintien qui n'est pas le même. Voilà, Gérard apparaît voûté un petit peu, en train de causer dans son micro. Et à côté de ça, on a le M. Philippe qui a les mains avec les doigts croisés. Et vous regarderez attentivement les images. Il tapote les pouces. Et il ne cesse de tapoter les pouces. L'air de dire quand c'est que ça se termine ce merdier. Quand c'est que ça se termine. Et il tapote. Et il tapote les pouces, et il tapote, et il tapote. Et alors quand vous enlevez le son, ça donne une situation absolument hallucinante. C'est parce qu'on a un gars qui cause et l'autre d'à côté qui a l'air de se dire purée, ça y est, il se barre, ouais. Ça y est, ah, il nous a dit qu'il se barrait, maintenant faut qu'il y aille là parce que ça commence à me gonfler, quoi. Et donc c'est une situation assez cocasse, je dois dire, à l'antenne. Le visuel est marrant, hein, parce que des fois avec l'image et le son, on oublie un petit peu de se concentrer sur la tenue des gens et ce que les corps racontent. Et Monsieur Philippe raconte beaucoup de choses à ce moment-là. En tout cas, Gérard est donc revenu. Il a fait une entrée à la gare. Très médiatisé, paraît-il.
Pas du tout programmé. Hein. On a senti qu'il n'était pas du tout arrivé en prévenant tout le monde.
Oui. Voilà. Ouais.
Pas son genre, en plus.
Non, pas son genre. Par contre, ce qu'a pu remarquer l'impressionné, c'est qu'il n'y avait pas tant de fans qui étaient là pour l'accueillir. Alors, il y avait Képé. Hein, ah bah Békian, oui. Là, qui a été là, ça, il n'y a pas de souci.
Aka le paillasson, comme on l'appelle à Lyon.
Et voilà, qui, oui, c'est ça, enfin, voilà. Qui revient donc, voilà, que M. Collomb donc, est arrivé avec la médiatisation. Tout de suite, il a dit qu'il revenait pour les Lyonnais. Oh, qu'est-ce qu'on est fiers! Non, parce qu'à un moment, quand même, je sais que certains et certaines d'entre vous nous écoutent d'autres villes. On était mais contents de le partager, si vous voulez, mais contents de le partager avec vous pour que vous compreniez notre souffrance après toutes ces années. Et là, pouf!
Il revient.
Il vous abandonne, vous là-bas. Et il revient nous voir à nous, tout entier, on va se l'avoir rien que pour nous. Alors, c'est un peu du coup la foire d'empoigne, parce qu'on ne sait toujours pas qui va remplacer M. Collomb, et on a l'impression que personne ne la place.
Mais d'ailleurs, c'est assez inédit dans cette espèce de truc électif qu'est la Ve République, où on élit un roi qui a quelques ministres. C'est quand même que pour la première fois depuis très longtemps, un Premier ministre se retrouve à être aussi ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'une concentration des pouvoirs, comme rarement il y en a eu. Je rappellerai juste que normalement, on sépare, le Premier ministre a accès à ce qu'on appelle les écoutes, c'est-à-dire tout ce qui est les services secrets intérieurs, et le ministère de l'Intérieur n'est pas censé les avoir. Si vous réunissez tout dans un seul ministère, c'est assez flippant.
Alors, voilà. Moi j'avoue que, avec ce bazar, j'ai pensé à la prise de fonction de deux personnes. Il s'agit de Isabelle Bertolotti et de Mathieu Lelièvre, qui ont pris part à une conférence de presse, c'était hier mercredi, puisqu'ils sont tous les deux nommés à la tête du musée d'art contemporain de Lyon, et ça s'est fait sans le maire. C'est-à-dire que normalement, vous savez, c'est un gros établissement quand même,
bah, oui.
Le MAC, donc il y a le maire.
Surtout que là, ils réunissent le MAC et les Beaux-Arts.
Oui, alors ils ne réunissent pas tout à fait. Ils vont les faire travailler ensemble dans une cohésion. Donc, effectivement, il y avait Sylvie Ramon qui était là. Bon, voilà, là, c'est une direction collégiale. L'idée, hein, c'est de remplacer Thierry Raspail qui était là depuis des décennies. Hein, on a voilà, même l'impression qu'il était là avec les murs.
Comme Gérard Cole.
Ouais, sauf que c'est pas tout. Ça serait insulté, je pense, Thierry Raspail, quand, sur la comparaison. je voudrais quand même pas du mal comme ça à M. Raspail, qui donc part en retraite, qui est donc remplacé avec donc un duo. Eh ben, il n'y avait pas leur maire. Je me suis dit, prise de fonction quand même, avec annonce à la presse, c'est un peu gloups. Alors, il y avait qui? Il y avait monsieur Loïc Grabert, donc l'adjoint à la culture, que vous ne connaissez pas, c'était normal, il ne faut rien. Je le dis, non, mais il faut y avoir un moment comme ça. En fait, vous connaissez le nom de vos élus, vous, d'une manière générale, à la ville de Lyon, si vous y habitez, que donc peut-être vous avez été voté? Sérieusement, posez-vous la question de combien d'adjoints et d'adjointes vous connaissez le nom. Ben, il n'y en a pas des masses, en fait. Parce qu'il y a eu une telle emprise de monsieur Collomb sur la
tous
ville,
les dossiers. En fait,
qu'on connaît personne. Alors bon, c'est un peu ce qui est soupçonné, c'est-à-dire que Gérard, ayant eu l'habitude d'être tellement avec le maître à bord, qu'il n'a pas bien supporté finalement ce qui s'est passé, peut-être avec Emmanuel. On ne sait pas trop. Bon, alors en tout cas, c'est marrant parce que dans la presse, ça donne plein de trucs qui sortent. Alors il paraît que Brigitte ne parle plus à Emmanuel depuis plusieurs mois.
C'est d'une tristesse.
C'est d'une tristesse. Qu'est-ce qu'on est malheureux.
Et qu'est-ce qu'on s'en fout surtout.
Voilà, mais c'est marrant parce que du coup, ça se déverse en ce moment. On a l'impression que la presse s'amuse. Tant mieux, écoute, hein, on va pas non plus plaindre ces braves politiques. Alors, donc, la situation, on en est où? On en est donc, Collomb revient. monsieur, que l'on voit bien, éjecte donc monsieur Kepenekian, qui donc lui a annoncé qu'il serait bien premier adjoint. Alors rappelons-le, il faut juste que Colomb soit réélu. Il ne revient pas direct dans son fauteuil. Hein, on va passer quand même par une petite phase pseudo-démocratique.
Et il fallait donc que le maire actuel démissionne pour laisser sa place.
Tout
il
suite.
L'a fait tout de suite, hein, une heure après.
Ah, c'était marrant, hein, ça a été annoncé sur les chaînes de télé d'info en urgence.
D'où son surnom de paillasson.
Hein, voilà. Alors, l'idée, c'est qu'évidemment, comme Gérard revient, il y a un moment, vous savez, il y a un nombre hein, quand même, tout ça, la ville. Et bien, il y en a un en trop. L'idée, c'est de savoir qui va gicler pour laisser la place et à Gérard, hein, et puis à son premier adjoint, Paillasson. Donc, dans la presse lyonnaise, on peut lire que c'est qui hein, celui qui sert à rien dont je vous ai parlé tout à l'heure, monsieur Loïc Grabert. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en fait, comme c'est le dernier arrivé, tout le monde se dit que ben, dernier arrivé, premier parti, vous savez, comme dans les entreprises.
C'est ça, ouais. Ça, c'est
on est dans le libéralisme. Hein,
très libéral.
Et Gérard, hein, donc libéralisme. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, bon, ça fait un peu marrer dans le secteur culturel, j'imagine, parce qu'on est aussi en fin d'année. Il faut comprendre qu'on est en période de dossier de subvention, on rencontre des gens, on se mobilise, on met ses équipes. Donc bon, c'est un peu le bazar à Lyon, mais globalement dans tous les secteurs, parce que tout le monde se demande quel adjoint on va perdre.
Bah, c'est ça, ouais.
Donc dans les milieux associatifs, je pense que ça rigole pas trop. Alors il y en a un autre qui a été beaucoup sollicité, c'est David.
Ah bah oui.
Hein, David Kenfeld, le patron de la mairie du 4, qui est le patron de la métropole de Lyon. Qui lui aussi s'est targué de petit papy dans le Figaro. Le Figaro a accueilli quand même toute la misère politique ces derniers temps.
Oui, bah en même temps, ils accueillent souvent la droite.
Ouais, ben bah, voilà.
Ça tombe bien.
Et puis il y a certaines amitiés, enfin tout ça, bon. Ouais. Certains rendus c'est avec vrai. Gérard, donc il fallait aussi jouer le jeu. Et David a expliqué que, en fait, il était bien quand même. Il a dit qu'il n'était pas un intermittent ni un intérimaire. Alors je me suis dit, c'est pas un peu une insulte pour les intermittents et les intérimaires.
Un peu quand même.
Moi je le trouvais un peu comme ça. C'est des gens très bien, les intermittents et les intérimaires, qui font un travail.
Bon, comme tout le monde.
Bah ouais, donc je vois bien quelle était l'idée. Mais enfin bon, si je vois bien quelle est l'idée de David, c'est de dire qu'il veut peut-être rester.
Bah ouais.
Après, lui aussi, a priori, il avait peut-être un deal. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que Gérard, c'est pas la mairie qui l'intéresse, c'est la métropole.
Bah, tu m'étonnes.
Ah, je veux dire, s'il a monté, il s'est emmerdé quand même. Il faut se le rappeler, Gérard a monté cette métropole, c'est pas pour que derrière on lui souffle la place.
Bah non, il voulait être baron. Et il a une baronnie, il veut la tête de la baronnie, quoi.
Donc,
c'est normal.
Donc voilà. Alors là, ça coince. Que va-t-il se passer? Ce qui est marrant, c'est que du coup, il y a des élus du 4 qui profitent du bazar pour s'en aller. Alors, je vais vous retrouver leur nom. C'est Anne Mignotte et Abdelkader Selmi qui s'en vont. Hein. Donc, elle était première adjointe à la mairie du 4. Lui, il est élu en charge des délégations jeunesse et solidarité. Alors, il paraît qu'il ne se retrouve pas dans le travail de David et puis qu'il était trop proche d'Emmanuel et de Gérard. Alors, on se dit, ils ont attendu tout ce temps avant de se rendre compte que ça posait problème?
Bah ouais, enfin tu sais, des fois on a de l'espoir. Non, je plaisante.
Ah ouais. Ah, il paraît que c'est à la métropole et puis Gérard. Gérard, il paraît qu'il était trop engagé de droite autoritaire, que ça marchait pas. Alors on se dit, bah tu découvres ça maintenant. Quand il était maire de Lyon, c'est lui qui nous a mis la vidéosurveillance, vidéoprotection, excusez-moi, de partout.
Et les flics armés aussi. Ouais, la police municipale armée.
Qui a tapé sur tous les manifestants et manifestantes. Et d'un coup, il y a des gens comme ça qui découvrent. En fait, c'est des gens pas bien avec qui ils n'ont pas envie d'être associés. Alors peut-être c'est aussi parce qu'il y a des gens qui se préparent malgré tout à prendre cette mairie qu'il faut commencer à se détacher tout de suite pour faire des petits groupes et des petits clans.
C'est vite là, 2020. Hein,
enfin, moi je dis ça, mais je dis rien. Enfin voilà, ce qu'on peut en dire un petit peu. Alors la dernière des choses que moi je ne sais pas du coup comment ça va se passer, mais j'attends, c'est qu'on avait appris par un chouette papier du Progrès aussi d'ailleurs. le 8 et le 9 octobre prochain, il va y avoir le G6 des ministres de l'Intérieur. Ah ouais. Ici à Lyon.
Mais il n'y a personne
ville.
Chez nous, du coup.
Alors, qui va mener, donc, du coup? Parce que le 8 et le 9, c'est demain.
Hein. Bah oui, il faut nommer quelqu'un.
Donc il faut quelqu'un vite fait. Ça va être sympa, il a déjà une soirée de gala. Le ministre ou la ministre hein, qui sera nommé. Pour l'instant, c'était plutôt des hommes hein, qui étaient cités, pensés, imaginés. Hein. Mais c'est marrant parce que Gérard a fait venir dans sa ville ce grand rendez-vous des ministres de l'Intérieur. Vous imaginez un peu comme ça va être sympa ce genre de rendez-vous.
C'est un peu tendu.
Alors ça va se passer en plus au Groupama Stadium. Je m'écorche la bouche à devoir dire des trucs publicitaires comme ça. Donc le machin à dessine, le stade hein, où l'équipe de football, pas du tout raciste. Mais pas du tout
pas
raciste
pas,
de Monsieur Aulas joue.
Non,
donc voilà, bon, ça va se passer là-bas. Donc moi j'attends de savoir quel est le ministre de l'Intérieur qui est donc nommé pour pouvoir prendre la place et donc aller tout de suite à ce grand rendez-vous. Alors, d'autres qui font parler d'eux évidemment dans le coin, c'est Monsieur Wauquiez. Parce que Wauquiez, vous savez, il veut la mairie ou il veut la métropole aussi.
Il veut tout. En fait, il a la région, il veut tout. Il a envie d'être partout. Omniscient.
En tout cas, il a lancé une belle campagne publicitaire. Il y a même eu un papier dans le Canard. Parce qu'au début, Wauquiez, c'était un petit monsieur dont personne ne parlait jamais.
Ah, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais en même temps, il nous emmerde pas mal.
Bah, faut dire qu'il est devenu un peu chef aussi hein, du côté de oui. Les Républicains. Donc, bah, ça le met dans une position un peu dominante aussi pour parler. Et du coup, il utilise sa région, notre région, pour ses petits projets personnels. Enfin, je caricature peut-être, vous allez me dire.
Pas vraiment, je crois.
Pas vraiment, non, d'accord. Donc, il a lancé une grande campagne qui s'appelle « C'est grâce à ma région ». Alors, il y a des trucs dans les transports en commun, il y a eu des achats dans la presse, il y a eu des 4x3, il y a eu les trucs sur les internet, les réseaux sociaux commerciaux, tous ces machins-là.
Et même un petit film.
Et oui, une belle vidéo.
Une belle vidéo, que je vous conseille si vous voulez rire.
Oui, il faut toujours rire de toute façon.
Non, mais vaut mieux en rire, hein. Vaut mieux en rire que s'en foutre. Mais franchement, cette vidéo, on a l'impression d'être dans les années 80 avec les moyens d'aujourd'hui. C'est un truc assez surréaliste quand même.
Alors, ce qui est bien avec Laurent, c'est que du coup, ça mobilise toujours un petit peu à gauche, parce qu'à gauche, elle mobilise toujours. Je ne sais pas pourquoi Laurent, il a réussi à dégager ce truc-là. Donc, il y a le groupe socialiste et démocrate d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc de la région, qui ont demandé à savoir combien la campagne elle a coûté. Parce qu'il y a un truc, c'est qu'avec monsieur Laurent Wauquiez, nous n'avons jamais des chiffres. La transparence.
C'est pas son truc.
Non. Pas du tout. Donc, bon, en tout cas, si. La transparence, des fois, on l'a, parce qu'il avait dit qu'il donnerait 200 000 euros d'urgence à l'abattoir dans l'Ain qui a pris feu.
Oui.
Bah, là, par contre, il y avait des sous.
Mais là, c'est marrant parce que ce mec a une capacité à parler de trucs qui existent depuis des années, parce que ça s'appelle les fonds d'aide régionaux pour les entreprises. Oui. C'est un truc d'argent qui est mis de côté en cas de pépin pour n'importe quelle boîte, et il essaie de nous faire croire que c'est une fleur qui fait ou un truc, alors que ce n'est que à ça que théoriquement ça sert. Quoi.
Mais c'est marrant parce que là, par contre, on a chiffre.
Ah ben là, t'as le chiffre, bah, c'est normal.
C'est ça. Et donc, il arrive à renverser quand même les trucs. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'association PETA, vous savez qui aime les animaux, a demandé à ce que cet argent soit plutôt utilisé dans les cantines pour développer des repas vegan. Bio. Donc, ça me fait marrer parce qu'il est interpellé. Je pense qu'il n'a pas répondu à PETA, à mon avis. Voilà. En tout cas, bon, ça fait marrer un peu tout le monde, cette campagne, parce que là, quand même, il y a quand même des élus qui ont été sanctionnés hein, par la justice pour avoir utilisé des médias locaux pour leur propre...
On se souvient de l'ancien maire de Villeurbanne, par exemple.
Voilà. Donc, mais ça arrive souvent, et là, je ne sais pas si ça viendrait un peu. Alors, le dernier dont j'avais envie de vous parler, c'est évidemment de monsieur Mélenchon. Jean-Luc, comment ça, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Parce que sa grande spécialité, c'est quand même de dire des trucs et de prétendre qu'ensuite, il l'a pas dit. Et donc là, il a fait...
Comme quand il parle de xénophobe, après qu'il oublie, il dit non, j'ai pas dit ça.
Mais alors, ce qui est marrant aussi, c'est parce qu'on a les habitudes. Alors, il adore donc le Venezuela et puis Cuba.
Ouais.
Il adore. Il adore. Et donc là, donc, Cuba a inventé, créé un vaccin contre le cancer du poumon.
Voilà. Tout simplement.
Oui, on l'a pas préparé celle-là, mais c'est avec Jean-Luc. C'est tout simplement. Donc il a fait cette belle sortie. Ce n'est pas vrai. Voilà. Ça aurait été chouette.
Ah ben ça aurait été super, mais sauf que c'est faux.
C'est faux.
En fait, ils ont développé un vaccin, effectivement, qui pourrait protéger de 15% des cancers des poumons, c'est-à-dire ceux qui sont liés à des infections de type bactérienne. Et donc, en fait, pas du tout un vaccin qui, si vous fumez 3 paquets de clopes par jour, va vous sauver la vie.
Voilà, voilà. Donc c'est pas pareil. Encore une fois, il a dit que si jamais il avait parlé trop vite, il retirait sa phrase.
C'est gentil, merci.
On paraphrase, mais c'est ce qu'il a dit. Et puis, il est aussi du genre Jean-Luc à s'en prendre à la presse, hein, puisque là, c'était sur France 3, hein, il est intervenu ce week-end. Il a agressé les journalistes qui lui posaient des questions, justement sur vous avez dit ça, mais après, vous dites que vous ne l'avez pas dit.
Mais en plus, c'est quand même assez hallucinant. Enfin, moi, ce qui me fascine chez ce mec-là, c'est vraiment sa capacité à se filmer, parce qu'il a un vidéoblog, vous savez, et tout, il se filme. Il met tout en ligne, donc en fait, on peut vérifier en 30 secondes qu'il a effectivement dit les choses, mais à continuer. À nier qu'il les a dites. Moi, je trouve que c'est inquiétant hein, de se dire que quelqu'un comme ça peut arriver un jour au pouvoir. Franchement, ça fout la trouille.
C'est ça. Et alors, le dernier, évidemment, c'est Emmanuel, qui reste le patron des patrons aujourd'hui. Quand même, personne ne sait mieux faire que lui la petite phrase pour l'instant. Oui. Jean-Luc essaye, hein, quand même, il faut bien le dire. Laurent, il est tout de suite agressif, ça marche pas.
Il lui manque le punch de la jeunesse.
Et Gérard, on s'ennuie des Kiko, c'est-à-dire que il nous endort. Et Emmanuel, lui, à chaque fois qu'il sort quelque part, le but, c'est d'avoir la petite phrase. Monsieur Macron, donc, est allé au salon de l'automobile. Hein, déjà, il a reçu... les patrons de l'automobile, leur dire que les patrons qui s'inquiètent quand même sur les problématiques de pollution de leur bagnole, il y allait peut-être bien y avoir un arrangement.
À l'amiable.
À l'amiable.
je te vends 12 millions de morts contre c'est un drôle d'arrangement.
Ah, mais l'emploi, bon, hein, quand même, dans l'industrie automobile. C'est donc, flippant. Voilà. Et donc là, il était à Colombey, les deux églises, et il a réussi à interpeller le général de Gaulle. Ça c'est chouette quand même.
Il fait tourner les tables aussi a priori.
Et il a réussi encore à être insultant avec la France entière en faisant une petite phrase. Alors je sais plus exactement comment il l'a sorti, que globalement fallait arrêter de se plaindre.
Bah oui. Mais c'est surtout, il a dit, c'était plus dur en 58. Mais ce qui est, en plus, ce genre de phrase complètement couillonne qu'on peut sortir, mais comme ça à tout bout de champ. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il prépare en fait les il sait qu'il va y avoir, il y a eu des manifs de retraités, qu'il y a des manifs qui se profilent, tout ça. Et en fait, il prépare le terrain journalistique, quoi. C'est-à-dire, c'est l'image de l'homme qui, si on arrêtait de se plaindre, c'est quand même mieux si on suivait sa politique. Mais il a un côté gaullien hein, dans cette façon de faire. Hein.
Oui, et puis
ce qui est pas terrible, hein, d'ailleurs.
Non, c'est pas terrible, il faut le dire. Et là, en fait, il est vraiment dans le déni, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a, vous me cherchez? Il a un côté Jean-Luc, un petit peu, hein, quand même, aussi de ce côté, mais un côté aussi Wauquiez. Enfin, il arrive à rassembler les tendances de Girard, de tout ce qu'on vient de vous dire, pour arriver à ressortir le meilleur de lui-même. Nous, ça nous déplaît un peu, on va pas vous le cacher. et à chaque fois, avec cette petite phrase, il est insultant. Alors, ça va être les retraités, les jeunes.
C'est la capacité à monter les gens contre une catégorie, systématiquement, et de changer régulièrement de catégorie. Ce qui fait que ça perd complètement les gens. Et du coup, c'est très compliqué de contrer ça, bizarrement. Et c'est, d'un point de vue de la com, c'est très fort. Parce que c'est difficile après de se dire, vous en êtes pris retraité. Bah non, parce que là, cette fois-ci, j'ai pas parlé d'eux, vous voyez. Mais c'est, alors qu'en fait, finalement, ils se contrefoutent de tout le monde, au final.
Alors, on a fait un petit tour un peu longuet, je vous l'avoue, sur ces personnalités, mais parce qu'avec notre idée avec Fabien ce soir, c'était de vous dire, arrêtez d'aller voter pour des abrutis.
C'est ça.
Oui, on est un peu dans la brutalité, là, on vous parle un peu comme ça, mais enfin, rendez-vous compte, là, on a fait quand même le tour sur l'échelle politique.
On a pris que les trois derniers jours. Hein.
Oui, alors, déjà. au niveau local, régional et national... avec un peu tous les partis. Bon, ok, il n'y a pas le Parti Socialiste comme j'ai dit tout à l'heure, mais enfin.
On ne tire pas sur les ambulances.
Voilà, ils ne servent à rien. De toute façon, ils ne sont même plus dans la presse. Alors bon, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde se fout de notre gueule quand même, il faut le dire. Donc, cette démocratie parlementaire, cette démocratie locale, on a des gens qui sont des tsars, des barons, qui se moquent de nous, qui sont des menteurs. On sait aussi qu'il y en a, dont on n'a pas parlé ce soir, mais qui sont aussi corrompus, qui prennent notre pognon, qui se servent. Et il y a quand même un gros travail à faire un petit peu sur le rapport à ces gens et sur le vote qu'on leur donne en fait, que vous leur donnez précisément.
Il y a surtout un gros travail à faire sur le rapport de force à mettre en place.
Voilà, c'est pour ça qu'on voulait un petit peu vous faire un panel. Ouais. En tout cas, moi j'avais envie. Nous passons à toute autre chose et on va parler de journalistes avec toi.
Oui, alors moi je voulais vous parler des journalistes, mais surtout du fait qu'il n'est pas très bon en ce moment d'être journaliste dans le monde. C'est pas... Alors le monde, pas le journal, hein, le monde, la planète. Hein.
Oui, la planète.
Voilà, c'est pas terrible. En fait, je vais déjà commencer par... vous parlez de trois journalistes turcs. Donc, le tribunal régional d'Istanbul vient de confirmer le 2 octobre 2018 la condamnation de Ahmet Altan, Mehmet Altan et Nazli Lika à la prison à vie. Voilà. Et comme en fait ce sont de très dangereuses personnes, il faut en plus les garder au strict isolement toute la période de cette prison à vie. Voilà, ça revient quand même à condamner quelqu'un de façon terrible et surtout avec un traitement inhumain total derrière. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait d'après le tribunal? Eh bien figurez-vous qu'ils ont fait leur travail, ces journalistes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait ils ont enquêté sur la corruption en Turquie, sur l'AKP, le parti de Monsieur Erdogan, et accessoirement ils ont aussi fait des enquêtes sur le PKK et sur les exactions de l'armée turque en territoire kurde. Donc en fait ils ont fait leur travail de journalistes et le défaut qu'ils ont eu, mais ça, ils ne pouvaient pas le prévoir, c'est qu'ils ont fait une émission la veille du fameux faux coup d'État qu'il y a eu en Turquie. Et donc, du coup, les juges estiment, en tout bien tout honneur, comme ils lisent, c'est véridique, hein, ils écrivent en tout bien tout honneur, avant de rendre leur jugement, en fait, ils ont voulu déstabiliser la démocratie et l'ordre constitutionnel, et qu'en fait, leur émission servait à lancer le démarrage de ce coup d'État. Il n'y a aucun lien prouvé, il n'y a rien de retrouvé. On aurait pu trouver à la limite peut-être des échanges de messages, choses comme ça. Rien du tout. Mais sur la simple présomption et sur le fait que les juges estiment, on va enfermer trois personnes, journalistes, à vie, à l'isolement, parce que ce sont de dangereux terroristes
Qui s'en sont pris à la démocratie.
C'est ça que j'adore. Voilà exactement le jugement. Alors, il leur reste encore un recours, ils vont y aller, ils l'ont dit, à la Cour de cassation turque, mais ils ne se font pas beaucoup d'illusions, malheureusement. Et ils risquent donc que cette peine soit confirmée. Je vais continuer ensuite sur mes journalistes, où c'est vraiment pas bon d'être journaliste. On va partir en Allemagne. Alors, en Allemagne, le 2 octobre, Klaus-Peter Krömling, un pigiste local du Namburger Tageblatt, a expliqué avoir été poignardé alors qu'il sortait du supermarché. Allez, il est sorti du supermarché, un gars qui arrivait pas derrière et qui lui a mis un coup de poignard. Et ils étaient deux, ces assaillants, et avant de partir, ils lui ont fait un salut nazi. Voilà, avant de s'en aller. Alors bon, ben c'est pas terrible, hein, comme on le sait. Alors qu'est-ce que le Namburger Tageblatt avait fait? C'est qu'il avait enquêté assez minutieusement sur ce qui se passe à Chemnitz, pardon, qui est une ville d'Allemagne de l'Est, vous savez, où plein de nazis se réunissent en ce moment, et où ils ont aussi tabassé des réfugiés et mis le feu à plusieurs lieux où ils logeaient, ces fameux réfugiés. Donc voilà, en fait, pour faire payer ce journal, on va planter le pigiste. On en est là. Voilà, c'est pour dire que c'est pas terrible d'être journaliste. Et puis pour continuer sur les journalistes qui ont vraiment des emmerdes en ce moment, mais où est passé Jamal Khashoggi, journaliste critique d'Arabie Saoudite? Tout le monde se pose la question. Où est Jamal? Depuis plus de 48 heures, la Turquie et l'Arabie Saoudite se renvoient la balle concernant le sort de Jamal Khashoggi, je me suis trompé sur son nom. Le journaliste, lui, ça fait des années qu'il critique l'Arabie Saoudite et le manque de droits de l'homme dans l'Arabie Saoudite et surtout de droits des femmes, parce qu'il a un grand credo, c'est l'égalité homme-femme dans son pays d'origine.
Il est fou.
Et voilà. Il est parti en déplacement en Turquie. On lui reproche d'ailleurs justement d'être maintenant avec une compagne turque et pas une compagne d'Arabie Saoudite. Donc voilà. Et donc il est parti avec sa compagne pour visiter des proches. Donc voilà. Et en fait, il a été sommé de se rendre par les autorités saoudiennes au consulat pour faire des papiers en urgence, sans quoi il était obligé d'arrêter son voyage. Voilà, vous savez, quand vous recevez ça, il s'est dit, je suis en Turquie, le consulat turc, je vais pouvoir me ressortir. Non. Voilà, il s'est rendu au consulat et il a disparu totalement. C'est-à-dire que depuis 48 heures, personne ne sait où il se trouve. Alors, selon la Turquie, il est toujours au consulat. Selon l'Arabie Saoudite, il est ressorti et c'est les Turcs qui l'ont arrêté. Voilà. Et selon moi, dans tous les cas, il est dans une sale drap. Je vais en faire très clair. Selon un de ses proches... qui s'appelle Turan Kislaksi, vous le connaissez peut-être parce qu'il est à la tête d'un consortium de journalistes arabo-turcs, et c'est lui qui avait sorti notamment les affaires sur Erdogan. Lui, il explique il est au consulat, il a été enfermé au consulat, et c'est ce que confirme le Washington Post pour qui travaillait ce journaliste, et qui dit, on a toutes les preuves qu'il est enfermé aujourd'hui dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Voilà, alors on peut espérer qu'il y perde pas la vie, parce que je vous rappelle que Mohamed Ben Saoud, le nouveau grand dirigeant de l'Arabie Saoudite, soi-disant progressiste, il aime bien faire décapiter les gens qu'il aime pas, voilà. Donc, on lui souhaite qu'il ne perde pas la vie, puis qu'il puisse retrouver la liberté assez rapidement. Mais en tout cas, voilà. Fait pas bon être journaliste en ce moment dans le monde. Et j'ai pris que les trois derniers jours, là aussi.
Ouais, ça, c'est souvent qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations à travers le monde où, pour les journalistes, et en particulier, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, mais de partout. Sur les migrants, par exemple, c'est une grosse catastrophe ces derniers temps. Moi, je t'aurais presque proposé d'enchaîner avec les barbares, si tu avais la possibilité.
Je peux, il faut juste que je tourne mes feuilles.
Il n'y a pas de souci. Alors, vous savez, dans cette émission, on appelle les barbares. Je sais que historiquement, c'est pas beau d'utiliser ce terme, mais c'est pas grave, c'est une tradition chez nous d'utiliser ça.
Ce sont donc les États qui pratiquent la peine de mort, pour
exactement.
Être très clair. Donc, je vais vous parler de Zeynab Sekanvand, qui a été assassinée par l'État iranien. Donc, pour mémoire, elle avait été mariée de force, Zeynab Sekanvand, à l'âge de 15 ans. Elle aurait, d'après les autorités iraniennes, tué son époux 2 ans après leur union. Voilà, ça c'est ce qui est officiellement lui était reproché. Cette jeune iranienne, elle a démontré qu'elle avait été harcelée, violentée, violée par son mari à de multiples reprises. Et donc elle a été exécutée au nom de la loi islamiste pour meurtre aggravé, ce qui est du fait qu'elle a tué son époux, c'est-à-dire son tuteur légal. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a été décapitée le 2 octobre. Son procès n'était... pendu, excusez-moi. Oui, des fois, ils ont des limites. Ouais. Son procès n'était qu'à charge, je le rappelle. Elle a avoué le meurtre de son mari sous la torture. Il y a Human Rights Watch et Amnesty International qui parlent de 7 jours de torture non-stop. C'est quand même un truc hallucinant. Et en fait, après, elle a désigné celui qui avait réellement tué son mari et qui est en fait le frère de celui-ci, donc son beau-frère, en précisant qu'en fait il se battait pour avoir les faveurs de la jeune femme. Et elle a aussi, elle avait aussi mis sur le devant de la, enfin devant de la scène comme on dit, le fait qu'elle était régulièrement violée aussi par son beau-frère. Voilà. Les deux vont bien, le beau-frère et le mari, qui est mort non, mais le beau-frère oui, pardon. Par contre, les juges vont très très bien, vu qu'ils se sont félicités de cette exécution. Et donc voilà, en fait, on est à la cinquième personne qui était mineure au moment des faits, qui a été assassinée par l'État iranien depuis le début de l'année. C'est juste glaçant. Et surtout, il y a Human Rights Watch qui fait un rapport assez précis sur le procès et qui explique qu'elle n'avait un avocat commis d'office qui ne parlait pas la langue régionale dont elle était porteuse, parce qu'elle était assez peu lettrée, et elle était incapable de lire des documents, et elle a signé des documents, d'après les autorités. Voilà comment on peut assassiner quelqu'un très facilement.
Oui, l'Iran est connu pour exécuter ses mineurs.
Ouais.
Et voilà, et puis sur le droit des femmes...
Bah ouais.
Voilà.
Je peux enchaîner si tu veux sur l'Irak.
Je veux bien.
C'est pas plus joyeux,
non,
mais voilà.
C'est, ça condense comme ça.
Alors en fait, en Irak, on fait respecter la pudeur à coups de meurtre en ce moment. Tara Fares, pour ceux qui la connaissaient, était l'ancienne Miss Irak, mais c'était aussi une blogueuse et une instagrammeuse extrêmement connue au Moyen-Orient. Elle était suivie par plus de 2,5 millions de personnes et en fait, elle a même été surnommée la Kardashian du Moyen-Orient, parce qu'il fallait bien lui donner un surnom. Elle a été assassinée en pleine rue de 2 balles dans la tête le 27 septembre 2017. Alors là, vous allez me dire, mais ça date un peu, pourquoi tu m'en parles aujourd'hui? En fait, je vous en parle parce que en réalité, ça a ouvert un peu la trappe sur les horreurs qui se passent en ce moment en Irak. Et en fait, il y a des milices de la bienséance, ils se nomment eux-mêmes comme ça, hein. C'est pas moi qui leur donne ce nom-là, qui donc assassinent des gens qu'ils estiment être en dehors de toute bienséance, voilà, par rapport à leur code à eux, hein. Et en fait, le meurtre de Tara Fares a mis à jour le fait qu'il y avait, donc depuis maintenant 2 ans, au moins une quinzaine de jeunes filles qui ont été assassinées de la même façon que Tara Fares, sauf qu'elles étaient moins connues, généralement de 2 balles dans la tête, hein, voilà, dans pleine rue. En fait, leur seul défaut du point de vue de ces messieurs, parce que ce ne sont que des hommes, hein, cette milice, c'est de vouloir vivre libre et de choisir sa vie quand on est une femme. Voilà. Donc on voit que en Irak ça se resserre, que malheureusement on a une partie de la population qui adhère à des idées pas terribles, mais surtout qu'en plus les moyens n'ont pas changé depuis Saddam Hussein qui faisait exécuter des gens aussi, parce qu'en fait ce sont a priori ces anciens comment ils appelaient ça, escadrons de la dignité, c'était leur nom à l'époque. Donc ils sont passés de la dignité à la bienséance et maintenant ils flinguent des femmes en pleine rue. Voilà. Et on a plus d'une dizaine. C'est pas très joyeux, mais c'est bien de le savoir, comme on dit.
Ouais. Je vais donc enchaîner.
Oui. Et avec la RATP, peut-être.
C'est ça. Comme ça,
en
ça
temps, on respire un peu.
Hein,
enfin, quoique.
Pour les salariés de la RATP, je ne sais pas s'il va y avoir une grande respiration. On a appris aujourd'hui que Madame Elisabeth Borne, la ministre des Transports, avait pris son petit stylo ou son petit clavier et a écrit aux organisations syndicales et patronales, donc aux organisations des travailleurs et travailleuses, et du patronat, pour annoncer qu'il allait bientôt y avoir une phase de concertation, le mot est important, pour l'ouverture à la concurrence des lignes de bus de Paris et puis de ce qu'on appelle la petite couronne de Paris. Hein, voilà. Voilà. Globalement,
tout ce que couvre la RATP
aujourd'hui, il y a un monopole,
voilà.
La RATP, et en 2024, ça sera fini. Ou peut-être. C'est-à-dire qu'il va y avoir un appel d'offres, un marché public. Et puis, des entreprises vont se présenter et peut-être que la RATP va gagner.
Et peut-être pas.
Peut-être pas.
Alors, j'ai vu que c'était par ligne.
Oui.
Ce qui est quand même phénoménal.
Écoute,
hein.
Y a des pays où quand même, sur la même ligne de métro, c'est le cas par exemple... Alors, quand vous allez par exemple au Japon, qui est un pays qui a libéralisé mais alors complètement son système à la fois ferroviaire et de métro, c'est-à-dire que selon la ligne de train que vous allez prendre, c'est pas la même compagnie, même s'il y a toujours une compagnie un peu comme la SNCF, qui est quand même assez importante, les lignes de métro sont absolument éclatées. Ce qui fait que, heureusement, elles ont à un moment quand même réussi plus ou moins à se mettre d'accord pour que les passagers et passagères puissent quand même utiliser qu'un seul...
Un seul ticket, c'est...
Alors,
mieux
ticket
quand même.
Non, mais en tout cas les mêmes passes.
Ah, les mêmes passes.
Par contre, pour les tickets, oui, mais c'est compliqué parce que des fois, c'est des villes, par exemple, comme à Tokyo, où tu peux être dans le même wagon.
Mais pas dans la même compagnie, du coup.
Oui, tu es dans le même wagon, sur la même ligne,
c'est
et à un moment, tu sais pas pourquoi, il y a une station, c'est la compagnie A, La station d'après, c'est la compagnie B. Va-t-on arriver à ce partage?
J'en doute pas vraiment qu'on y arrive.
je vous prends un truc extrême, mais voilà, ça peut arriver. En tout cas, on n'en est pas là, mais c'est 2024, c'est demain, hein, ce sera très très vite là. Donc on va avoir une phase de concertation parce qu'il y a besoin d'un accompagnement social, paraît-il, je cite, l'accompagnement social.
Autrement dit, on va virer du monde.
Alors, la question est surtout aussi de savoir, comme à la SNCF, qu'est-ce qu'on va faire des salariés de la RATP qui ont quand même, à force de lutte, de combat et de syndicalisme, réussi à obtenir des petites choses. Qu'est-ce qui va se passer pour ces braves gens? Parce que si la RATP perd ses marchés, perd la ligne de bus numéro 30, par exemple, je ne sais pas si elle existe, mais je ne sais même pas où elle est, mais j'imagine que oui. Je ne vois pas bien pourquoi on serait passé de 29 à 31. Quoique, des fois, allez savoir. Ces agents de la RATP, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que une autre société va embaucher de nouveaux travailleurs et travailleuses, ou est-ce que c'est ces gens-là qui travaillaient là qui vont aller sur la nouvelle entreprise choisie?
C'est généralement ça, ce qu'on appelle un transfert.
Alors, c'est ce qui est censé se passer. D'après Madame la ministre, Elisabeth a un peu assuré que les gens perdraient pas leur emploi.
Ah, leur emploi, on n'a pas parlé du statut, du salaire et quoi que ce soit.
Ah non, elle a dit que à la RATP, les gens garderaient les avantages et les statuts acquis.
Oui, mais pas ailleurs.
Mais pas ailleurs.
C'est vite vu.
Alors, il paraît aussi que ceux qui seraient transférés, je cite, les personnels de la RATP transférés le seront avec un sac à dos social.
Oh, c'est merveilleux ça. Ils ont l'air d'inventer des mots, je trouve.
Alors, c'est cité dans la presse comme. C'est, je ne sais pas qui a dit ça, au ministère du Transport, des Transports.
Un vendeur de sacs à dos, a priori.
Donc, il y a un sac à dos social qui existe, sachez-le, vous pouvez peut-être l'obtenir dans certaines grandes marques du groupe Auchan, Liège. c'est pas cher, mais le contenu.
Mais il y a le sac à dos, mais il est vide.
Donc, bon, je ne connais pas encore la réaction des syndicats. De travailleurs et de travailleuses, mais on s'attend peut-être à ce qu'il y ait du mouvement un peu comme à la SNCF.
Faut rappeler qu'il y a la RATP a une intersyndicale quand même qui tient depuis des années.
Oui.
C'est-à-dire, contrairement à d'autres entreprises, à la RATP, c'est souvent des mouvements unitaires, c'est-à-dire que tous les syndicats quasiment vont ensemble dans les mouvements, ce qui est le meilleur moyen de faire un bon rapport de force, d'ailleurs, au passage. Et on imagine mal que ça se passe sans qu'il y ait des. Sans que ça grince, quoi, quand même. Voilà. Mais moi, j'aimerais souligner un truc qui me surprend qu'à moitié. C'est que ça fait un moment, en fait, qu'à la RATP, moi, je vais régulièrement à Paris, on voit qu'en fait, ils privilégient certaines lignes. Il y a des lignes où il y a des très beaux bus,
c'est ça.
Où vous êtes très bien,
ça
ils sont
bien.
Climatisés, ils sont à l'heure, ils sont ce que vous voulez. Puis il y a des lignes qui vont en banlieue. Et là, par contre, là, je peux vous dire, ils sont pas à l'heure, ils sont pas beaux, et c'est des bétaillères. Et en fait, on voit déjà, en fait, que la RATP, l'entreprise, hein, pas les salariés, prépare ce qu'ils vont larguer, hein, c'est là où ils veulent pas rester, en fait. On le sent, quand même.
Ouais.
Et c'est un peu, on voit qui va encore trinquer.
Oui, parce que derrière, quelle entreprise va vouloir tel marché, est-ce qu'on va lui demander de rénover ou pas les choses? Donc, quel avantage vont avoir ces fameuses entreprises,
Oui.
Je en marche, donc j'ai dit
à la RATP, ouais.
Voilà.
Si tu veux, on peut aller faire un tour dans un paradis fiscal, si ça t'intéresse.
Allez, on y va.
Enfin, un petit tour à Andorre.
Allez.
Alors moi, je voulais vous parler d'Andorre, alors pas pour que vous alliez placer vos sous, hein, c'est pas mon idée, mais en fait, je vous rappeler un petit truc. Andorre, c'est 85 000 habitants, hein, c'est un tout petit pays qui est entre la France et l'Espagne, en plein Pays Basque, hein, pour ceux qui cherchent où se trouve Andorre.
Petit, hein.
Très petit. Elle est dirigée par deux entités, l'évêque catalan d'Urgel, et le chef d'État français. Voilà, c'est aussi étrange que ça, mais ça date depuis le XIIIe siècle que c'est comme ça que les deux siègent. Hein. Et en fait, dans les faits, c'est plutôt l'évêque qui va décider de tout. Hein, voilà. Et ben en fait, Andorre est rentré membre des Nations Unies en 1937 et du Conseil de l'Europe en 1993, pardon, et du Conseil de l'Europe, mais pas de l'Union européenne, car elle a toujours été refusée à la demande de l'Allemagne, qui estime que c'est un paradis fiscal et que on n'a pas à faire rentrer de paradis fiscaux autres que ceux qui existent déjà. Donc voilà. Donc de ce beau pays, qui est aussi, donc, comme je vous le disais, un paradis fiscal, il est strictement interdit d'avorter. Strictement interdit. Avorter, c'est un délit qui est passible de 6 mois de prison pour la femme et de 3 ans de prison à 5 ans, de 3 à 5 ans de prison et de 3 ans de prison et de 5 ans d'interdiction d'exercice pour le médecin qui pratiquerait l'avortement. C'est-à-dire que c'est exactement les lois qu'il y avait en France avant la loi Veil, pour être clair. Hein. Voilà. Sauf que samedi dernier, et puis en fait tous les jours depuis samedi, il y a des femmes qui ont décidé de briser le silence. Donc samedi 29, elles étaient une quarantaine, allaient en manifester avec des slogans comme « Nous ne sommes pas des incubateurs » et « Laissez vos chapelets en dehors de nos ovaires ». Je trouve les slogans super cool. Dans les rues d'Andorre-la-Vieille. Alors Andorre-la-Vieille, je vous rappelle que c'est la capitale du petit état d'Andorre. Hein, ça va être beaucoup compliqué, mais voilà. Donc elles réclament la dépénalisation de l'avortement dans la principauté d'Andorre. Alors le ton du cortège était clairement radical et certaines affiches réclament les droits de l'homme sont aussi les droits de la femme, hein, au passage, et pas de tutelle ni de l'État ni de l'Église. Donc on voit quand même qu'elles ne sont pas trop d'une frange qui serait conciliante avec l'évêque au pouvoir. Voilà. Et donc du coup, elles ont interpellé, parce que quand même elles se sont dit, il y a un moment, il y a aussi M. Macron qui siège à Andorre. Bah oui, les deux sièges, donc elles le disent, mais dis donc, Manu, tu fous quoi? Parce qu'en gros, c'est un peu la question qu'elle lui pose. Donc, en fait, c'est assez intéressant parce que Anthony Marty, qui est chef du gouvernement andorran, hein, parce que oui, Andorre a un évêque qui siège et un gouvernement pour 85 000 personnes. Voilà. Et donc, le 11 octobre, il est prévu qu'il rencontre Emmanuel Macron dans le cadre, en fait, du sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie. Donc, les féministes d'Andorran demandent officiellement à Emmanuel Macron de se positionner sur le droit des femmes à Andorre à cette occasion. Et elles rappellent qu'elles ont toujours œuvré et toujours voulu que Andorre soit rattachée à la France, mais pas forcément en tant que pour le goût de la République, hein, c'est pas trop leur truc. Elles expliquent plutôt parce qu'en fait, aujourd'hui, Andorre, c'est une entité qui n'existe pas, si ce n'est dans la tête de quelques banquiers, et que nous ne souhaiterions être autre chose que des ventres qui donnent des enfants à de futurs banquiers. Voilà.
Ouais. Écoute, s'il n'y avait pas la lutte de ces femmes, on aurait pu leur envoyer Gérard.
C'est vrai.
Comme ça, ils auraient pu cumuler encore. voilà. Mais quand même, on ne va pas leur imposer ça.
Non.
Alors, on va ouvrir une page plus touristique, si vous voulez bien maintenant. Déjà, on va se gausser.
Rions un peu du tourisme.
Il paraît que la fréquentation des touristes en France a progressé en 2018 et ce n'est pas fini. Hein. Oh. Il y a encore 3 mois, ça a progressé de 2,3%. Hein.
Wow.
Exceptionnel. Alors il paraît qu'il y a 87 millions de visiteurs étrangers. Là, c'est exceptionnel. Là. Depuis, ça remonte après les attentats, tout ça qui avait fait fuir les étrangers. Ça revient. Alors il y a 37 millions de nuitées. Pouf, vous imaginez même pas. Alors c'est pour la clientèle européenne. Mmh. Il paraît que c'est les gens qui viennent du Royaume-Uni qui sont les plus nombreux au niveau européen. Et puis après, on a les Américains de l'Amérique du Nord. Et puis les Asiatiques, alors en particulier avec l'arrivée aussi des Chinois qui sont les nouveaux touristes internationaux.
Que tout le monde drague d'ailleurs, hein, si vous voyez un peu partout. Oui. Le mandarin est devenu une langue courante maintenant dans les affichages.
Oui, alors il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un mauvais tourisme parce que c'est un tourisme de masse, de groupe et que... ça rapporte parce qu'ils sont nombreux à se déplacer d'un coup, mais que finalement, par Chinois et Chinoises...
Oui, il préférait que ce soit des bons Européens qui voyagent
veut venir, mais qui dépense plus.
Oui, c'est ça, qui dépense plus.
Ouais, c'est ça.
C'est pour ça que je faisais les parallèles avec les Européens ou les Américains qui ont l'habitude de dépenser beaucoup.
Il faut un peu donner votre thune. Bon, c'est un peu l'idée. Alors, c'est l'Île-de-France qui a bénéficié de la meilleure fréquentation des étrangers en juillet et en août. C'est une belle progression, paraît-il. Et puis, par contre, messieurs, mesdames, il va falloir vous bouger parce qu'il paraît qu'il y a une baisse du tourisme des Français en France.
Vous voulez dire qu'en fait, on ne part pas en vacances?
Si, mais il paraît qu'on est retourné dans les pays sur lesquels on s'est éloigné, comme la Tunisie.
Ah bah voilà.
Voilà, on n'est même pas capable d'être franco-français dans notre voyage et dans notre tourisme.
On ne peut même pas exploiter les gens qui sont exploités dans le tourisme français. On va exploiter les gens qui sont exploités dans le tourisme ailleurs.
Incroyable. Donc il paraît que c'est pas bien, parce que du coup, on n'aide pas à faire un bon... bon chiffre, hein, quand même. Bon, on en rigole, mais enfin, le tourisme, c'est 7% du PNB, hein, quand même. Donc, des sommes qui sont importantes en France.
Et il faut se rappeler de la projection qui avait été faite, qui dit que le tourisme devrait atteindre 17% du produit national brut en 2030. C'est énorme. Hein.
Déjà, je vous rappelle un chiffre que j'avais déjà donné ici. 2020, ce qui est visé, c'est 100 millions de visiteurs étrangers, 60 milliards de recettes.
Ouais, c'est, oui, ce qui est bien, quand même.
Ah, c'est bien. Mais 100 millions de visiteurs étrangers... Il va falloir les impacter.
Oui.
J'emploie ce terme. Alors, il paraît que. Alors, je ne sais pas si vous savez comment s'appelle le secrétaire d'État en charge du tourisme.
Ah, non, alors, aucune idée.
Tiens. Il s'appelle Jean-Baptiste Lemoyne.
Il existe vraiment ou...
Avec un Y.
Ouais, d'accord.
Ouais, ouais, ouais. Alors, il paraît qu'il s'inquiète de la surfréquentation sur certaines zones.
Bah, en même temps, oui, enfin, on imagine.
Donc, il monte un programme.
Voilà. Ah, alors, qu'est-ce qu'il nous propose?
Alors, je sais pas bien. Il veut pas, en tout cas, que Paris devienne comme Venise ou Barcelone.
Oui.
Et qu'il veut étaler le tourisme sur la France.
Ah bah il est gentil, un peu partout, tout
c'est-à-dire
le monde.
C'est-à-dire que les gens n'aillent pas que sur la Côte d'Azur non plus, parce que c'est évidemment la PACA, la région évidemment où les gens vont plus.
Non mais c'est pas, à la limite pourquoi pas, mais le problème c'est que les gens viennent voir ce qu'ils ont envie de voir, donc on vend Paris, la Tour Eiffel, l'amour, tout ça, donc les gens viennent
quand on est bas de gamme dans son tourisme de masse...
Bah oui, je veux dire.
On a le tourisme de masse et la surfréquentation qui va avec. Alors. Mais voilà, il y a comme une espèce de prise de conscience, paraît-il, qu'on est très très fiers qu'il y ait de plus en plus de tourisme. Mais quand même, comment on va gérer ce bazar?
Bah, en même temps, tu disais 37 millions de nuitées en plus sur cette année. C'est énorme.
Alors, en plus
quoi.
De. Je sais pas, mais
c'est en plus.
C'est en plus,
ah bah
c'est
si,
ça, oui. C'est en générant 37 nuitées. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça.
Donc, c'est. On imagine, c'est énorme, quoi. C'est. Voilà.
Ouais.
Il y a 37 millions de personnes qu'il faut loger, quoi.
Bah, c'est en clientèle européenne, hein, je disais. Puisqu'après, les Américains, c'est pratiquement 10 millions de nuitées. Les Asiatiques, c'est 9 millions. Donc, en fait, on se rappelle aussi qu'on a les Jeux Olympiques en 2024. On se rappelle, hein?
Ah, comme on est content.
On est content. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir du monde. Parce que l'idée, c'est aussi ça. C'est comme le Japon, dont je vous parlais tout à l'heure, qui multiplie les événements pour attirer des touristes. Hein, les pauvres, hein, la Coupe du Monde de rugby 2019, les JO en 2020, l'exposition universelle Osaka 2024, je crois. 2025.
Ouais, il pourrait faire le concours de dépollution nucléaire aussi, ça pourrait marcher.
Et voilà. Du coup, il y a un peu cette problématique. Alors, ce qui est marrant, c'est que par contre, donc, il paraît que l'hôtellerie va bien, va mieux en tout cas.
Pas les salariés de l'hôtellerie, par contre.
Non, mais qu'en plus, alors, il y a un double problème dont je vais parler. L'hôtellerie de luxe, par contre.
Il y en a trop.
Ça marche pas. Bah, le problème, c'est qu'il paraît qu'il y a une saturation à Paris, parce qu'il y a tout plein de palaces qui ont ouvert, parce que voilà.
Je crois qu'il y a une trentaine de palaces maintenant sur Paris.
Ouais, alors je les ai pas. Je voulais les recompter avant de venir.
De mémoire, c'est un truc comme
mais
ça.
Mais surtout qu'il y en a deux autres qui vont ouvrir.
Ouais,
alors il y a les vrais palaces et les boutiques hôtels.
Ouais, c'est ça.
Et le truc, c'est que le boutique hôtel, tu vas payer entre 500 ou 1000 euros ta chambre. Les autres,
Beaucoup plein.
Voilà. Et que ça pose un vrai souci parce qu'il y a beaucoup trop de chambres maintenant et qu'il y a des taux de remplissage qui sont assez mauvais. Donc, Palace, c'est un investissement un peu casse-gueule, hein, je vous le dis si vous vouliez un petit peu investir là-dedans. Reste qu'effectivement, ce sont plutôt de riches étrangers.
Bah oui.
Qui viennent. Apparemment, il n'y a pas assez de riches français, je ne comprends pas non plus pourquoi. et puis que le problème, c'est qu'il y a une concurrence internationale, c'est-à-dire que les gens vont autant aller à Paris, à Londres, que dans d'autres villes, c'est-à-dire que Paris n'attire plus les riches pour Paris, simplement. Alors toujours un peu, mais il y a une concurrence, oui, et les palaces arrivent. C'est ça le libéralisme.
Oui, puis c'est surtout le fameux tourisme événementiel. Je viens à la Fashion Week à Paris, je vais au machin du cinéma à Berlin deux jours après, vous voyez, et je ne sais même plus où je suis à la fin. Mais ouais.
Alors tu parles de la Fashion Week Fashion Week, c'est en ce moment. Bah, y a des grèves dans certains palaces. Alors, il y a au parc Hyatt Paris-Vendôme, ceux et celles dont on ne parle jamais, en tout cas, qui ne sont pas censés être vus par les riches clients.
Bah, là, elles se sont montrées.
Ah oui, parce qu'il paraît qu'elle donc il y a une grève. Hein, alors la semaine dernière, je sais pas où elle en est, là aujourd'hui, mais il y a eu une grève illimitée qui a été lancée. C'était mardi dernier, vendredi dernier, il y avait toujours pas eu de retour de la direction. Donc voilà, il paraît que elles sont malines. Les vilaines grévistes, elles réveillent les clients à 7h du mat.
Oui.
On aurait beaucoup d'enfer. C'est les palaces. Imaginez-vous des gens qui payent quand même. Une fortune.
La nuit, oui.
Une fortune.
Elles appelaient aussi dans les chambres, ce qui est très, très drôle.
Ouais, ouais, alors ils sont très, très fiers. Il paraît qu'il y a des hôtels. Bah, dans cet hôtel-là, parce que ce n'est pas le premier palace dans lequel il y a des grèves. Donc là, c'est une grève soutenue par la CGT. Il paraît que au parc Hyatt Paris-Vendôme, il y a déjà des clientes qui sont barrées. Forcément, t'as envie de dormir.
Imaginez les gueux qui vous réveillent, quand même.
Comme un truc de fou. Alors là, le problème, quand même, c'est qu'il y a une sous-traitance à tous les niveaux, la plupart des activités sont des sociétés externes qui interviennent. Et alors, dans le ménage, le nettoyage, les interventions en chambre, c'est là où c'est la catastrophe. Hein, parce que ça, on le sait d'une manière générale, la sous-traitance, vous n'avez pas de matériel, les horaires sont horribles et vous n'êtes pas assez nombreux et nombreuses.
C'est même le but de la sous-traitance.
Oui. La sécurité est aussi externalisée. La lingerie. Donc en fait, il n'y a plus que du peu de personnel présent qui appartient vraiment
à l'hôtel lui-même,
à l'hôtel au palace. C'est un vrai problème. Alors après, l'hôtel en même temps dit oui, mais en fait, nous on a des gens qui sont dans l'administratif qui font pas grève. Hein. Et puis ils sont à nous, hein. Donc c'est qu'une minorité. Ah bah oui.
Ah bah oui, t'es marrant, toi.
On n'a pas dit que la lutte de classe était si simple non plus, hein. Bon, on va voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que donc je voulais quand même vous parler de ces grèves parce qu'il y en a souvent hein, dans les palaces. Ouais. Bon, ça tombe bien, nous on n'y va pas, donc on peut boycotter.
Ah bah c'est facile pour moi. Hein.
Ah, le boycott est facile.
Le boycott est simple, je pense pour toi aussi.
Mais du coup, voilà, en tout cas, bon.
Mais par si contre, vous... on peut aller soutenir si vous êtes à côté d'un palace. Il y a souvent des piquets de grève, allez les soutenir. Quoi,
c'est un peu l'idée quand même. Moi, quand même, j'ai trouvé sur le site start.leseco.fr sur la partie rejoindre une entreprise, conseil candidature // Palace Parisien, un quiz pour découvrir ce secteur qui recrute. Donc c'est Florent Verret qui V-A-I-R-E-T, j'aime bien quand même citer correctement les noms, pas écorcher. Ah, oui. Donc Florent Verret a écrit un papier absolument magnifique. C'était le 1er octobre à 14h38, pour, en tout cas mise en ligne à 14h38, pour nous expliquer que dans les palaces parisiens, ça embauche.
Bah oui, c'est vrai. Hein. Non, mais dans les sous-traitants des palaces parisiens, je pense que c'est pas de problème.
C'est un secteur qui ne connaît pas le chômage, nous explique-t-il. Ben, mais encore faut-il avoir le bon profil.
Docile, c'est quoi le bon profil?
Rigueur, abnégation, courtoisie.
Bah ouais.
Alors la courtoisie, là, les nanas en grève, je vais te dire qu'elles s'assoient dessus. Mais normalement, elles sont tout à fait courtoises. On leur demande de la discrétion, de la rigueur et de l'abnégation. La petite erreur n'a pas sa place dans la vie des palaces.
Ah bah c'est beau ça.
Ça aussi, il le dit. Mmh. Contre une facture quelque peu salée, le client est traité en roi. Il exige un service impeccable et un personnel au petit soin pour assévir ses désirs, parfois les plus fantasques. Donc si toi tu cherches du travail, sache que grâce à Florent Verret,
tu peux en trouver.
Tu peux, il te fait miroiter tes boulots de dingue.
C'est ça, ouais.
Magnifique. Payé au service du roi, voilà. De la reine, du prince, du tsar, du riche.
Et payé à coup de lance-pierre, parce qu'il ne faut pas déconner.
Mais n'oublie pas de baisser la tête. Quand par même. Contre, donc ça m'a fait marrer qu'on soit aussi détaché des choses. Alors certes, hein, start.leseco.fr n'est pas là pour faire du journalisme. On est bien d'accord, c'est un site qui est là pour vendre de la pub.
C'est de la promo cash, comme on dit.
Et c'est de la promo pour les entreprises, et puis pour tous les syndicats d'entreprise, enfin tous ces trucs-là, pour le patronat. C'est très marrant, parce qu'il paraît qu'il nous explique aussi qu'il y a une concurrence accrue entre les palaces. Bah oui, je viens de vous expliquer qu'il y en avait trop. Donc quand tu as une spécialité BTS Palace, par exemple, je ne sais pas si ça existe, hein, dans l'hôtellerie.
C'est BTS Hôtellerie, je crois.
Ouais, mais là, c'était BTS Hôtellerie, je respecte. BTS Palace, ah oui. C'était pour me moquer. Parce que quand on lit Florent Verret, on a l'impression que tu dois être particulier vu que tu as un client particulier.
Oui, c'est une branche particulière de l'hôtellerie. Voilà.
Certes, c'est une branche particulière, mais comme si quand tu étais comptable dans un palace, c'est pas être comptable.
Mais t'es comptable palace.
Voilà.
Ça me rappelle une série qui avait palace.
Alors, il nous explique, c'est ça. Parce que des postes sont constamment ouverts en restauration. C'est constamment ouvert.
C'est sûr, ils virent tout le monde. Précaire, voilà. C'est précaire, ils virent.
Mais qu'il y a aussi des profils Bac plus 3 et 4.
Ah bah ouais, évidemment.
Voilà. Bon, moi, ça m'a fait marrer d'être aussi déconnecté de la vie et d'oser signer même. J'espère que c'est un.
Je pense que c'est un pseudo.
Ouais, on est d'accord.
Surtout avec un Y.
Voilà. Il n'y a pas de Y. V-A-I-R-E-T. Florent Verret.
Pardon.
Voilà, avec un R, je fais exprès de rouler. Alors, et puis juste pour vous dire que le tourisme de masse, ça détruit l'environnement. Puisqu'on avait appris qu'il n'y avait pas très longtemps, aux Philippines, fin octobre, c'était jusqu'à fin octobre, il y a une. L'île. Boracay, qui est très connu des touristes, ouais. Qui est fermé depuis le mois d'avril. Hein. On avait déjà appris ça, parce que trop, ça abîme.
Oui.
Et là, on a appris qu'il y a une plage qui a été rendue célèbre par un film, avec Leonardo DiCaprio. On se souvient peu qu'il y avait Virginie Ledoyen et Guillaume Canet aussi.
C'est vrai. Et en fait, en même temps, on se souvient peu de ce film qui n'était pas très bon.
Qui s'appelait La Plage et qui était très mauvais, il faut le dire. Bah oui. Leonardo DiCaprio était assez jeune, le film date de 2000. Donc le film a mis en avant une plage en Thaïlande et malheureusement, les imbéciles de touristes...
Ils sont tous allés.
Et oui. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a même maintenant des gens qui n'ont certainement pas vu le film et qui y vont. Et c'est le cas des touristes chinois qui ont apparemment vu dans des brochures, vantées par des organismes de tourisme de masse chinois, qu'il fallait aller là-bas. Et alors, donc les autorités ont décidé de fermer la plage, l'accès, complètement, puisqu'il y a une destruction des récifs coralliens, il y a la pollution des moteurs, puisqu'en fait beaucoup arrivent...
En bateau.
Ouais, par le côté mer, par le côté bleu.
Oui, parce que l'autre côté, c'est une montagne. Enfin, c'est un peu casse-gueule. Ah,
voilà, bah, ils vont pas faire de la rando aussi, non plus les touristes de masse, il faut pas être fou. Donc ils arrivent et il reste que quelques minutes, font un petit portrait qu'on appelle un selfie et s'en vont.
Voilà.
En ayant tout bousillé, évidemment, sur place. Donc au début, l'idée, c'était de fermer la plage peu de temps. Et puis, a priori.
Ils vont la fermer, hein, je
ouais.
crois.
Au début, c'était de la fermer 4 mois pour que le massif corallien puisse se régénérer. Et apparemment, ça ne va pas être suffisant, d'après les études qui sont en cours.
J'avais entendu qu'il parlait de 4 ans minimum pour
il faut se rendre compte, quoi. 5000 visiteurs par jour sur un petit bout de plage minuscule.
Ouais, 5000. Minuscule, hein.
Alors évidemment, 10 minutes par personne, tu vas me dire, ça faisait
peu. Ah non, ils peuvent pas tenir les 5000 sur la plage. Hein.
Alors donc, je vous ai pas dit, peut-être la plage était sur l'île de Kofifilet, Maya Bay. Belle plage, paraît-il, mais qui est complètement détruite par le tourisme de masse. Et c'est un peu de partout, effectivement, parce qu'on parle souvent de Barcelone, de Venise, mais il faut pas oublier que partout dans le monde, il y a un tourisme de masse avec des gens qui arrivent, qui ont le pouvoir d'achat à nous, même pas en être riches, et qui vont tout saloper en bouffant de la merde, laissant leurs déchets, écrasant la nature, l'environnement, et en polluant avec des moteurs à bateaux absolument pourris, entre autres.
Bah, je peux rester sur l'environnement deux minutes. Vous savez, il y a une grande polémique sur des bébés qui naissent mal formés en ce moment avec des mains en moins ou des bras en moins. Donc Santé publique France a été saisie. Alors Santé publique France, je vous rappelle, c'est un organisme C'est un organisme chargé de surveiller en fait les naissances en particulier et les malformations ou autres cas trop fréquents constatés autour de la naissance. Alors, ils font pas que ça, mais c'est une des branches de Santé publique France. Donc en fait, je vous rappelle, il y a une quinzaine de bébés qui sont nés mal formés, qui ont été recensés dans l'Ain, la Loire-Atlantique et en Bretagne. Alors, Santé publique France n'a pas identifié d'exposition commune pour ces bébés. On ne peut pas dire c'est telle molécule qui les aurait mal formés. Alors pour l'Ain, ils ont démontré qu'en fait, l'analyse statistique ne met pas en évidence un excès de cas par rapport à la moyenne nationale. Voilà. Et pour la Loire-Atlantique et la Bretagne, ils ont conclu que il n'y avait pas de lien de causalité, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de molécules communes ou de choses communes entre ces bébés pour qu'ils aient cette malformation. Alors on va rappeler que l'anésie transverse des membres supérieurs, c'est le nom de cette malformation, c'est l'absence de formation d'une main, d'un avant-bras ou d'un bras au cours du développement de l'embryon, c'est 150 cas par an en France en moyenne. Voilà, donc c'est pas quelque chose de si rare que ça, mais voilà. Le problème, c'est qu'on pourrait être rassuré quand ils nous disent ça, mais le souci, c'est qu'en fait, non. Parce que les données qui ont été prises, elles ne reposent que sur 19 départements et sur 19% des naissances. C'est-à-dire que 19 départements et 19% des naissances suffisent, d'après eux, pour faire des statistiques. Sauf que même Santé publique France le dit, en fait, ça ne suffit pas. C'est comme si vous preniez un cinquième de la population, vous tombez par hasard statistiquement sur les gens qui vont bien, et puis vous dites, tout va bien parce que les gens vont bien. En fait, non. Donc, en fait, Santé publique France rappelle que pour pouvoir rendre des rapports un peu plus sérieux que ce qu'elle a rendu là, vous voyez, ils s'autocritiquent, il faudrait juste qu'on crée en fait un suivi de toutes les naissances et de toutes les malformations, et pas juste, je le rappelle, 19 départements et 19% des naissances. Ça marche pas, en fait, si on fait que ça. Voilà. Donc, c'était le moyen, à mon avis, pour Santé publique France, de dire, oui, je rends un avis parce qu'on me l'a demandé, mais en fait, je suis pas sûr de mon avis. Voilà. Vous voyez ?
Ok.
C'est intéressant, parce que je pense vraiment que c'est un moyen pour eux de dire, j'ai pas les outils statistiques suffisants pour aller au bout de ma recherche. Voilà. Donc, on est rassuré d'un côté, et on l'est pas vraiment de l'autre.
Bah ouais, c'est un peu ça le problème quand même.
Mais c'était pour ça que je voulais en parler, parce que je trouve bien qu'ils prennent position un peu ouvertement là-dessus, quoi. Agenda ?
Je crois que nous avons fait un peu le tour de nos sujets. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, juste après nous, ça y est, c'est le retour de la petite cuillère. On attendait le retour de l'équipe de cette émission qui va vous parler des prisons et de comment on n'aime pas ça. Et ça m'amène à vous parler d'un agenda et de ce qui va se passer demain au 44 rue Burdeau sur le premier arrondissement de Lyon, c'est-à-dire le quartier de Radio Canut.
Bah oui, la Croix-Rousse.
C'est le local des syndicats de la CNT du Rhône, qui vous allez donc pouvoir aller voir un film qui s'appelle À l'ombre de la République. C'est dans le cadre du ciné-club de la CNT. Donc demain, vendredi 5 octobre, à partir de 19h, l'idée c'est de regarder ce film donc qui se passe en prison et de parler du travail en prison. Du travail des prisonniers, de se poser un petit peu des questions. C'est bien, c'est pas bien ?
Ben oui. par exemple, c'est bien ou pas bien de travailler en prison?
Ah voilà. Hein, et puis qu'est-ce qu'on en sait finalement? Parce que c'est pas facile d'obtenir des informations.
Et on a le droit de se syndiquer en prison?
Elle est bien bonne celle-là.
Question, hein.
Donc c'est un sujet très ouvert pour vraiment débattre. Mais même par exemple, je sais pas, moi ça m'a fait penser le TIGE. C'est bien ou c'est pas bien?
Bah ouais.
Le travail d'intérêt général, parce que c'est vrai que du coup on va pas en prison, mais
est-ce qu'on ferait pas un peu du travail gratos?
Hein, du coup. Donc ça pose voilà. Donc c'est aussi un peu l'idée de parler de ça, puis de rappeler qu'il y a des gens qui derrière les barreaux travaillent. Que parfois c'est une nécessité, il faut le rappeler aussi.
Oui.
Voilà. Parce qu'il faut bouffer. Voilà.
Mais c'est ça. Et
s'occuper.
Oui, oui. Et puis qu'on rappelle qu'en taule, rien n'est gratuit. Enfin, ils le disent assez dans la petite cuillère et qu'en fait, il y a des gens qui ont besoin de cet argent. En fait.
Donc ça peut être une soirée sympathique. Il se passe d'autres trucs à Lyon demain. Mais en fait, je ne vais parler que de ça.
Voilà.
Je suis partisane, un peu, on va dire.
Et bien, c'était bien. Voilà. De parler que de ça.
Allez.
Moi, je vous invite à venir dimanche à 22h, du coup, pour une émission qui s'appelle La Causerie.
Et ouais,
c'est sur Radio Canu.
C'est toujours bien. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas le temps, si vous dites le dimanche à 22h, je dors.
Oui, ça peut vous arriver.
Et ben, il y a toutes les émissions sur le blog de La Causerie.
C'est ça, exactement. Et ben d'ailleurs, nous, on va aller mettre ce Canu Info sur le blog du Canu Info.
Et on se retrouve, en tout cas, moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec le retour de Laurent.
Voilà.
Petit Laurent.
Ce sera peut-être moins bien, mais en tout cas, il sera là.
Oh, c'était toujours bien. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous accueillir à La Causerie dans cette émission pour remplacer Laurent. Et merci à toi d'être venu.
Et bien, avec plaisir.
À très bientôt.
À bientôt.
Ciao, ciao.
Salut.